Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On est allé puiser dans un puits presque sans fond d'informations parce que la vie est un puits sans fond d'informations et on va vous en faire encore une fois la démonstration. L'ami Sébastien Boucher et moi-même. Salut Sébastien, comment ça va?
Ça va très bien. Et toi, Simon?
Ça va bien, merci. Hein? Quand je dis que la vie, c'est un puits sans fond d'informations, c'est assez vrai. Je veux dire, les sujets sont presque intarissables. Et c'est la démonstration qu'on vous fait d'une semaine à l'autre avec l'émission peut contenir des infos. T'as passé une bonne semaine?
Vraiment, ben oui. Ben, il fait froid, par contre. Là, le froid est arrivé.
Ben oui, c'est l'hiver. Hein? C'est l'hiver. Il va falloir qu'on commence à s'y faire, comme on dit.
Oui.
On va avoir des sujets très intéressants encore une fois cette semaine. On va parler, entre autres choses, tantôt de traverse de chemin de fer et d'une espèce de, permettez-moi l'expression, partie de bras de fer qui se joue entre le Canadien national et Transport Canada et, en face d'eux autres, dans une certaine mesure, les producteurs agricoles dont les terres agricoles sont traversées par les chemins de fer. Puis, il y a une facture qui pourrait être refilée aux exploitants agricoles ou aux agriculteurs qui s'annonce assez salé. On aura l'occasion d'en parler tantôt avec Jean-Marc Dufresne. Il est auteur d'un article dans le journal Agricom sur le sujet. Et vous allez voir, ça risque de piquer votre curiosité. Tu vas nous parler, toi, un petit peu plus tard dans l'émission, des champignons, mais pour une raison bien spécifique, Sébastien.
Oui, tu avais parlé au début de la saison des champignons, Simon, qu'il faut faire attention. Il y a tellement de champignons toxiques, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai l'origine de la toxicité des champignons dans une nouvelle étude là, qui m'est tombée sous la main. Et puis, j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, on fera le tour d'autres détails. On va revenir avec notre quiz aussi, fin d'émission.
Oui, bien sûr.
C'est moi qui t'en ai préparé un cette semaine.
Ça va porter sur quoi?
Le miel.
OK. Okay.
Je vais voir si tu connais ça, les abeilles et le miel.
On va se beurrer les doigts. On va parler, enfin, moi, je vais parler un petit peu plus tard de la production de bois en laboratoire sans abattre d'arbres. On est rendu là.
Ah.
Et j'aurai l'occasion également de vous parler dans quelques instants d'une façon révolutionnaire de préparer de l'eau potable. Mais d'abord, tu veux nous parler d'un cadran solaire, ou en fait des cadrans solaires?
L'histoire du cadran solaire. On y va dans nos petites brèches historiques aujourd'hui. Ben oui, cadran solaire, on commence avec ça.
Ben oui.
Un instrument de mesure là, qui indique le temps solaire, c'est le déplacement de l'ombre d'une tige sur sa surface. On connaît bien le principe pour la plupart. La table du cadran aussi, sur laquelle est tracé un ensemble de graduations. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. La tige indique généralement l'heure par la longueur ou la direction de l'ombre. Hein, si vous avez déjà vu un cadran solaire, sur les cadrans courants là, qu'on retrouve, l'élément porte-ombre est généralement incliné parallèlement à l'axe de rotation de la Terre. Puis cette inclination-là, c'était pas là au début, hein, les premiers cadrans solaires, mais là, avec ça, l'angle dépend de la latitude du lieu où on est sur la planète et ça permet de lire l'heure pendant toute l'année directement sur un même ensemble de graduations. Alors, on a l'éventail des lignes horaires là-dessus. Puis le cadran solaire est considéré, du fait que ça soit si simple, comme un des tout premiers objets qui a été utilisé par l'homme pour mesurer l'écoulement du temps. Hein, rien de moins. Les plus anciens indicateurs solaires connus ont été trouvés en Égypte. C'est beaucoup de choses qui nous viennent de l'Égypte. Mais ils indiquaient seulement, ces cadrans-là, des instants indéfinis et pas les heures au sens qu'on les entend aujourd'hui. Je vais vous expliquer, mais les premiers vrais cadrans solaires sont probablement le Polo et le Scaphé, qui sont basés sur la sphère, supposés être introduits en Grèce antique au 4e siècle avant Jésus-Christ, ça date pas d'hier. Il y a d'autres modèles aussi qui en ont découlé, des modèles hémisphériques coniques inventoriés dans les cadrans antiques, mais ces modèles-là indiquaient des heures inégales. Oh. Alors, c'est là que ça devient intéressant, ouais? Des heures temporaires qu'on appelle aussi, qui variaient selon le lieu, la saison, okay. Parce qu'ils divisaient le jour, du lever au coucher du soleil, en 12 heures, été comme hiver. Alors, les heures d'été étaient longues, les heures d'hiver étaient courtes. Donc, ce n'était pas vraiment des heures égales. Puis, le principe des cadrans solaires qu'on a inclinés, là, le style incliné, comme on les connaît aujourd'hui, bien, ça provient de la civilisation arabe vers les 13e et 14e siècles. Et cette inclination qui a permis de tracer un diagramme de ligne horaire qui indique des heures égales.
OK.
Et puis là, un jour d'un midi au suivant est divisé donc en 24 heures sur ces cadrans-là, peu importe l'époque de l'année. Et quand il y a eu l'apparition de l'horloge, ça c'est à partir du 14e siècle, ça a entraîné le développement des cadrans solaires inclinés parce que là, on pouvait directement comparer les heures avec celles des horloges. Alors, le but du cadran solaire, c'est lui qui nous disait l'heure, puis l'horloge, sa mission, c'était de la conserver, l'heure. ça nous prenait le cadran solaire pour mettre l'horloge à la bonne heure.
OK, ouais, c'est ça.
C'est ça quand même. Les cadrans ont alors fait l'objet d'une science qu'on appelle la gnomonique. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est la science des cadrans solaires.
OK, je viens d'en apprendre, là. La gnomonique.
Oui, la gnomonique, c'est une branche de l'astronomie. Et puis, elle a connu son apogée, cette science-là, au 18e siècle, dans les années 1700. Okay. Puis, ce type d'instrument de mesure a aussi connu beaucoup d'éditions de poche, hein, des cadrans solaires qui permettaient la gestion du temps en voyage, par exemple. Les plus anciens d'usage courant, qui étaient pliables en métal ou en bois, qu'on pouvait mettre dans les poches, ça remonte au 14e siècle. Mais ça existait déjà, ça a l'air, en antiquité, mais sauf que là, c'était les heures temporaires. Hein, c'était pas les heures qu'on a aujourd'hui. Le jour solaire n'est pas rigoureusement constant suivant les saisons non plus. Hein. Mm-hmm. L'heure légale est la même dans tout un pays, ben, quand le pays n'est pas trop grand. Là, comme c'est sûr qu'au Canada, on a plusieurs fuseaux horaires parce que le pays est immense. Mais dans la plupart des pays, l'heure légale est la même dans tout le pays. Puis l'heure solaire varie en continu, elle, avec la longitude. Hein. C'est comme si c'est une heure différente, juste une tasse de une couple de kilomètres, dans le fond, un cadran solaire, l'heure a changé un petit peu. Là.
C'est ça.
Alors, pour passer de l'heure solaire à l'heure légale, il faut appliquer trois corrections. Tu sais, quand on utilise un cadran solaire, on voudrait avoir l'heure. La première correction, c'est l'équation du temps. Alors, c'est l'écart entre le temps moyen et le temps vrai du soleil. Deuxième correction, de longitude égale en minutes de temps à quatre fois la longitude exprimée en degrés. Et ça, je t'explique, parce que la Terre fait un tour sur elle-même, puis il y a 360 degrés dans un rond. Donc, elle fait en 24 heures. Donc, c'est 15 degrés en une heure ou 1 degré en 4 minutes. D'où l'idée de multiplier par 4. La correction donne le temps universel et comptée négative pour les longitudes est et positive pour l'ouest. Alors, les cadrans qui sont situés à l'est sont en avance sur l'heure de Greenwich. Bon, ça, c'est bien certain. Il faut ajouter la différence liée au changement d'heure aussi, hein, parce qu'on a les heures d'été et heures d'hiver. Dans différents pays.
Ouais.
Alors, en faisant toutes ces corrections-là avec le temps légal à partir d'un cadran solaire, on a le temps solaire plus la correction liée à l'équation du temps plus le décalage temporel lié à la longitude et on ajoute la différence heure d'été, heure d'hiver, puis on réussit à avoir la bonne heure avec un cadran solaire. Puis, les corrections qu'on fait entre l'heure solaire puis l'heure légale, ça peut être directement inclus sur un cadran quand ils sont un petit peu plus élaborés. Par exemple, si on a une tige dont la forme compense l'équation du temps, ou avec des lignes horaires qui incluent les corrections, bien, ça prend une forme ondulée sur le cadran solaire et elles peuvent être décalées si la longitude est prise en compte. Et puis là, on a l'heure directe sur le cadran. Alors ça, c'est des super cadrans. Puis, les formes concrètes sont innombrables pour des cadrans, surtout à la fin du 20e siècle. On a développé tout un art du cadran, des décorations. Hein, ça me fait penser aux fameux cure-dents qu'on avait parlé, qui les font sophistiqués. Bien, les cadrans solaires aussi, il y en a que c'est des véritables œuvres d'art. Il y a des sculptures ou peintures, parfois monumentales. Et voilà. Mais un cadran solaire, ça ne fonctionne pas quand le soleil n'est pas visible.
Hein. Ouais.
Mais savais-tu qu'avec l'ombre portée par la lumière de la lune, on peut retrouver l'heure vraie aussi, moyennant des petites corrections. Parce que très tôt, là, presque toutes les civilisations ont développé des instruments qui pouvaient prendre le relais du cadran solaire pendant la nuit, surtout celui qu'on appelle le clepsydre. Donc, c'est un cadran lunaire. Puis, le plus ancien cadran solaire qui est reconnaissable, connu, date de 1300 ans avant l'ère actuelle, donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Puis, le plus grand cadran solaire au monde, il existe depuis le 20 juin 2009 en France, sur le barrage de Castillon dans les Alpes de Haute-Provence. Ça, c'est un immense cadran solaire. Il couvre une surface de 13 000 m², puis indique l'heure solaire en été de 6h à 18h grâce à l'ombre sur la corniche en surplomb qui couronne le barrage. Alors ça, c'est le plus gros au monde. Mais les cadrans solaires, c'est fascinant, puis je vous invite à en avoir un à la maison.
Ben dans le jardin, oui, c'est une belle décoration.
Ben oui, puis c'est le fun d'avoir l'expérience de vraiment avoir un cadran qui fonctionne.
Mais tu sais, une chose, c'est qu'au final... moi, je trouvais que c'était une belle invention, le cadran solaire, mais quand tu t'es mis à disserter à propos des calculs qu'il fallait faire pour avoir une heure un peu qui faisait de l'allure, je me suis aperçu que la montre est encore une pas mal meilleure invention que le cadran solaire, finalement. Tu sais, c'est un peu ça.
Oui, oui, il faut faire des corrections si on veut arriver à l'heure légale.
OK. Je vais vous parler d'eau potable. Vous savez que dans le monde, plus d'une personne sur quatre n'a pas accès à de l'eau potable. Hein? C'est grosso modo à peu près 26 % de la population dans le monde qui n'a pas de l'eau potable. En gros, ça fait plus de 2 milliards de personnes qui ne peuvent pas boire de l'eau en toute sécurité. Mais heureusement, il y a des solutions. Il y a une jeune start-up française qui est en train de peut-être changer la donne avec son invention. La compagnie s'appelle Fonto de Vivo. On pourrait traduire ça peut-être en français comme la fontaine de vie ou source de vie, je ne sais pas trop. Là. Alors, qui a inventé un système assez efficace qui transforme l'eau non potable, a priori, en eau potable. Et c'est l'un des appareils qui est les plus performants dans le monde pour une si petite machine à un prix aussi abordable. C'est facile à utiliser. C'est un système qui permet d'obtenir, quand même, hein, jusqu'à 3 litres d'eau potable par minute. Pas mal. Hein?
C'est bon.
3 litres là, à minute, tu es capable de fournir un peu quelques verres d'eau. Là, alors, on peut prendre de l'eau de pluie, ruisseaux, rivières, lacs, étangs, même des nappes phréatiques à la rigueur et les puits. Et ce purificateur d'eau, il est baptisé Oriza. Il a été créé par 2 anciens membres de Mission humanitaire, David Monnier et Anthony Caillot. Et il a été d'ailleurs homologué, testé par l'Institut Pasteur. Et on a prouvé qu'il pouvait filtrer jusqu'à, ou en fait, plus de 99,999% des virus et plus de 99,999% des bactéries et des protozoaires présents dans l'eau. Autant dire que il reste à peu près plus rien de cochonnerie, là, si vous me permettez l'expression. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pompage manuel. L'eau est aspirée dans le purificateur. Ça traverse les pores d'une membrane d'ultrafiltration avec des fibres. Et puis, on retient tout simplement les virus, les bactéries, les micro-organismes et tout ça. Et c'est très populaire apparemment auprès des ONG humanitaires, on s'en doute, hein, qui font évidemment des missions à travers le monde pour aider les populations qui sont, on va dire, mal famées, là, ou sous-alimentées et on pourrait dire, entre guillemets, sous-abreuvé. C'est un système qui est d'une simplicité déconcertante. On ramasse de l'eau dans une bassine, on met le purificateur à l'intérieur, on active le pompage manuel et l'eau remonte dans le purificateur. Ça traverse de fines membranes et il y a un système intégré de rétro-lavage qui fait que l'eau qui sort dans le robinet est tout à fait limpide. Technologie qui retient les impuretés. Actuellement, ce système-là est en vente à moins de 300 euros. Qui est quand même pas pire.
C'est bien accessible.
C'est vraiment accessible. Oui. Il y a pas mal de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui se le procurent actuellement pour le camping ou encore le chalet, mais l'entreprise rappelle que 90 % de sa mission demeure axée sur le secteur humanitaire et l'entreprise espère que 2025 va être la grosse année pour eux autres parce qu'à ce jour, ils ont actuellement, je pense que ça a commencé aux alentours de 2021-2022, il y a 2-3 ans de tout ça, ils ont plus de 22 000 purificateurs d'eau Oriza qui sont utilisés quotidiennement à travers le monde, mais on espère que 2025, on espère que ça va être la grosse année parce qu'eux autres, ils ont pour ambition d'en vendre 10 000 à un petit peu moins de 300 euros dans le monde, là, à travers la planète au cours de l'année 2025. On va leur souhaiter la meilleure des chances parce qu'on le sait, l'eau potable, c'est évidemment une ressource dont on tous besoin.
Et c'est plus les petits filtreurs qu'on connaît, là, qu'on avait, hein, les petits filtreurs en plastique. Ça a l'air haute technologie, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. S'ils voient 10 000 pour le grand public, c'est pas beaucoup. Il faudrait que ça arrive par millions.
Il faudrait que ça arrive à un moment donné à se répandre partout à travers la planète pour régler à tout le moins les problèmes d'approvisionnement en eau potable de gens qui, en Afrique, par exemple, ou dans les pays d'Amérique latine, ont de la difficulté justement à avoir accès à de l'eau potable. Ça clôt cette première portion de l'émission. On parle dans un instant avec Jean-Marc Dufresne de ce problème qui oppose les agriculteurs les exploitants d'agriculture à travers le Canada, particulièrement dans l'Est ontarien où lui s'est intéressé à ce sujet-là. De l'autre côté, il y a les gens du Canadien national et c'est l'émission Peut contenir des infos qui se poursuit pour encore plusieurs bonnes minutes.
Peut contenir des infos.
Il y a beaucoup de produits qu'on achète à travers le pays qui voyagent en train, on le sait évidemment, que ce soit des automobiles, des matériaux par exemple, du carburant et partout à travers le pays, les trains traversent des exploitations agricoles avant que ces biens de consommation-là, évidemment, arrivent jusque chez nous. Avec, on s'en doute, quelques risques que ça implique pour la sécurité quand ces trains-là traversent des routes, des rangs et ces exploitations agricoles, évidemment. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, c'est qui est responsable de ces infrastructures ferroviaires? Qui paie, par exemple, pour les passages à niveau sur les terres agricoles, les traverses des barrières, des choses comme celles-là?
Oui, parce que, Simon, là, il y a des agriculteurs de l'Ontario qui ont reçu un message du Canadien national, là, le CN, qui dit que la traverse de chemin de fer sur leur propriété représente un haut risque d'accident. Alors, ça serait leur responsabilité à eux d'installer une barrière à des coûts là, qui peuvent être faramineux, qui peuvent atteindre jusqu'à 2 millions de dollars dans certains cas.
Wow.
Et coût annuel d'entretien qui peut coûter jusqu'à 10 000 dollars. Alors, c'est énormément d'argent.
Oui, énormément, on s'en doute. Hein. Jean-Marc Dufresne, il est journaliste rédacteur au journal Agricom dans l'Est ontarien. Il s'est intéressé au sujet. Il signe un texte qui a pour titre, et vous allez voir un peu le jeu de mots là-dedans, « Chemin d'enfer », tu sais, chemin de fer, chemin d'enfer. Alors, qui, selon vous, mesdames, messieurs, devrait payer pour installer des barrières aux traverses de chemin de fer sur des terres agricoles? Est-ce que c'est le CN? Est-ce que ce sont les producteurs agricoles eux-mêmes? On va lui poser la question. Il est au bout du fil. Jean-Marc Dufresne, bonjour.
Bon matin, messieurs.
Jean-Marc, à quel moment cette lettre-là a été acheminée aux agriculteurs et surtout, pourquoi elle a été envoyée à ce moment-là, cette lettre-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a envoyé ça, cette affaire-là?
Ben, c'est une intéressante question parce que dans les faits, la lettre a commencé à circuler, ou en tout cas, les agriculteurs franco-ontariens en ont pris connaissance au mois de juin 2024. Et c'est là qu'on a avisé certains propriétaires fontiers que les traverses à niveau sur leur terrain ne correspondaient plus aux normes des normes fédérales qui entrent en vigueur le 28 novembre 2024 et que ça prenait une mise à niveau. Une mise à niveau des chemins, des passages à niveau. Alors, cette réglementation-là fédérale n'imposait pas aux agriculteurs de payer. Mais le Canadien national, qui est responsable de l'entretien du chemin de fer, a tenté d'une certaine façon de refiler la facture aux agriculteurs. Et c'est là que le signal d'alarme a sonné pour plusieurs d'entre eux.
Hey, mais Monsieur Dufresne, qu'est-ce qu'elle disait exactement, la lettre? Qu'est-ce qu'elle disait au juste?
En fait, c'était assez laconique. Ce qu'on disait, c'était que le passage à niveau présentait un haut risque d'accident et qu'il était de la responsabilité du propriétaire foncier d'installer une barrière. Et le coût, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, allait de 600 000 à 2 millions de dollars, avec un coût annuel, parce qu'une fois qu'il est installé, après ça, il faut l'entretenir, le coût annuel d'entretien était de 10 000 $ Alors, c'est le Canadien national, c'est pas Transport Canada, c'est le Canadien national qui envoyait cette missive-là aux différents propriétaires fonciers. Alors, évidemment, il y a des regroupements d'agriculteurs de l'Ontario qui ont dit « Attends, mais là, c'est quoi cette affaire-là? Vous voulez notre faillite? » Et il faut voir les deux points de vue. Pour le Canadien national, si vous avez une centaine de propriétaires fonciers, que vous avez des frais de, disons, 2 millions, ben, vous pouvez vous retrouver avec une facture de 200 millions de dollars, ce qui est énorme pour le transporteur ferroviaire. Mais à l'inverse, pour un agriculteur qui a sa terre de 100 hectares, ben, c'est des sommes qui vont tout simplement l'acculer à la faillite. Ben, il fallait trouver là-dedans l'espèce de juste équilibre qui devait payer la facture. Heureusement, ça, c'est prévu. C'est encadré par la loi fédérale. Il y a un principe de loi qui dit, et c'est un article 102 qui date de 137 ans, imaginez-vous.
Wow.
Une loi qui dit que si on peut prouver, si l'agriculteur peut prouver que sa terre initiale telle qu'elle était, a été traversée par un chemin de fer et séparée par un chemin de fer après 1888, ben là, ça revient à la compagnie de chemin de fer de défrayer les coûts pour la mise à niveau des passages à niveau. Parce que, il faut, et ça, c'est important de le retenir, parce que si la terre a été séparée et vendue, ce qui est au nord de la voie ferrée appartient à M. Untel, puis il a vendu tout ce qui était au sud à quelqu'un d'autre, ben là, cette provision-là ne s'applique plus. Alors, il y a une centaine de propriétaires fonciers au Canada qui sont touchés. Vous allez dire, il me semble que le Canada, c'est grand, mais il faut se rappeler que là-dedans, vous avez des gens qui ont des terres qui sont immenses. Vous pouvez avoir des terres de 3000 acres. Et sur une terre de 3000 acres, il faut se rappeler aussi qu'il peut y avoir plus d'un passage à niveau. Donc là, le 600 000 à 2 millions, il peut se multiplier par X nombre de passages à niveau que sur la terre. Alors, c'était vraiment une situation, c'est encore une situation qui est un peu problématique pour certains propriétaires.
Mais Jean-Marc, c'est quoi les travaux qui sont exigés? On s'entend qu'entre 600 000 et 2 millions, là, c'est pas mettre 3-4 piquets de clôture puis une broche pour empêcher le monde de passer. Là. Pourquoi c'est si coûteux que ça? Ou juste, qu'est-ce qu'on demande aux agriculteurs?
En fait, c'est que il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. C'est que lorsqu'on va effectuer des travaux comme ça, ça signifie une chose, entre autres, c'est qu'il faut qu'on interrompe le trafic ferroviaire. Oh. Il peut pas y avoir de trafic ferroviaire. Il peut pas y avoir, c'est pas comme une route où on peut faire une voie de déviation. Alors, il faut tenir compte de ce que ça coûte d'interrompre le trafic ferroviaire pendant ces travaux-là. Et ces travaux-là doivent être faits en suivant des codes d'ingénierie qui sont très, très, très précis. Le type de matériaux, le type de imaginez le poids des locomotives. Alors, on ne peut pas faire n'importe quelle préparation de sol là-dessus. Les barrières, l'équipement électronique pour être... Là, on n'est plus en 1888, là, avec l'augmentation de la circulation sur les routes. Ben, ça prend de l'équipement électronique pour activer les barrières sans faille, parce qu'une erreur coûte cher, une erreur coûte la vie. Alors, c'est l'ensemble de tout ça qui fait... Et là, ça prend des rapports d'ingénieurs. Alors, vous additionnez tout ça et c'est ce qui fait là, le genre de montant dont on parle.
Mais concrètement, là, si un agriculteur n'est pas capable de payer des montants comme ça, aussi gros, ça serait quoi les conséquences?
Ah ben la plus simple avenue, c'est que le chemin de traverse qui lui permet d'accéder à ses terres est condamné. C'est-à-dire qu'il ne peut plus traverser et il y a une barrière permanente qui fait que le propriétaire du terrain n'a plus accès à cette portion de terre-là, à moins d'avoir un autre accès en quelque part. Mais ça, c'est la base, le coût le moins élevé, la conséquence la moins coûteuse. Et je vous dis ça de façon relative, parce que si tu n'as plus accès à ta terre, ben tu n'as plus accès aux revenus de ta terre. Alors ça aussi, ça a un impact pour les agriculteurs.
Mais Jean-Marc, là, c'est quasiment une game de ping-pong. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. À un moment donné, tu regardes ça aller, tu as la tête d'un bord puis de l'autre. C'est quoi les arguments que chacun ont? Parce que moi, je lisais cet article-là que tu as écrit dans le journal Agricom, un article qu'on va inviter les gens à consulter aussi pour se faire une tête là-dessus. C'est que chacun a l'air d'avoir quand même des arguments qui se tiennent pas pire. Est-ce que je me trompe ou...
Ben, en fait, à partir du moment où vous avez une loi fédérale qui encadre le processus et qui dit c'est pas bien compliqué, là, si ta terre était complète, puis qu'il y a un chemin de fer qui a passé à partir de 1888 jusqu'à aujourd'hui, et qu'il divise cette terre-là en deux, c'est le CN qui paye. Pas compliqué, c'est ça. Okay. Si c'est avant ça, c'est le cultivateur qui paye. Okay. Alors, on a un cadre, et après ça, s'il y a des... Ben, malgré une loi, vous savez qu'une loi n'a jamais empêché des gens d'aller en cour pour aller défendre leurs droits devant les tribunaux. S'il y a des litiges, là, il y a toutes sortes de leviers. Par exemple, il y a le député à qui on a parlé, Francis Drouin, qui dit, écoutez, vous avez des agriculteurs là-dedans, ils traversent le chemin trois fois par année, là. Une fois par les semis, puis une fois par les récolter, puis une fois par les revisiter ses terres. Puis on n'est pas impossible de penser qu'on va condamner quelqu'un à payer 600 000 à 2 millions pour l'aménagement d'un traverse qui passe trois fois par année. Alors, toutes ces considérations-là, c'est un jeu. D'ailleurs, lui-même parle d'une espèce de jeu de gros bras entre le CN et Transport Canada, un peu comme si Transport Canada avait choisi de modifier la réglementation sans considération pour ce que ça pouvait représenter pour le CN, et que le CN a dit « Ouais, ben comme moyen de pression, regarde bien, nous autres, on va refiler la facture aux agriculteurs, puis pendant qu'il y a une patate chaude entre les deux, ben tu sais probablement que la pression qui va se faire sur les décideurs de la part des agriculteurs va faire en sorte que Transport Canada va être obligé de reculer d'une façon ou d'une autre ou de modifier ses recommandations, ses obligations. Alors, c'est un peu un jeu politique aussi à travers de ça.
Eh bien, justement, je me pose la question. C'est le député fédéral Francis Drouin, le député de l'Est de l'Ontario, qui semble dire que les associations d'agriculteurs ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui lui fait dire ça à M. Drouin?
En fait, oui, ça a été une surprise un petit peu pour moi, parce que la lettre, on l'a mentionné, a été envoyée au mois de juin, mais écoutez, faut se rappeler que tout ça part d'un incident qui est survenu à Ottawa en 2013. Il y a eu un accident, un passage à niveau, qui, si je me souviens bien, avait coûté la vie d'une personne, d'un automobiliste, et c'est en marge de ça qu'il y a eu cette révision-là des mesures de sécurité dans les différents passages à niveau. Et ce que M. Drouin dit, écoutez, c'est depuis 2013-2014 que c'est dans l'actualité, qu'on sait qu'il y a des révisions des mesures de sécurité. Et là, tout d'un coup, quand le CN envoie une lettre disant aux gens, bon, ben voici maintenant, vous allez devoir vous acquitter de ces frais-là, les regroupements d'agriculteurs disent, oh mon Dieu, on ne l'a pas vu venir. Ça fait depuis 2013-2014 qu'on en parle, en quelque part, ça vous touche, vous auriez dû être au courant de ça. Alors, c'est la petite pointe, c'est le petit lion qui l'envoie. L'OFA, à qui on a parlé, la Fédération des agriculteurs de l'Ontario, n'a pas répondu à cet aspect-là de la question. Mais effectivement, c'est un dossier qui moi, je pense, oui, on a commencé à en parler en 2013-2014, mais ça a pris un certain temps avant que ça s'articule et que ça prenne la forme actuelle avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Je ne pense pas qu'en 2013, on parlait de 600 000 à 2 millions pour chaque propriétaire foncier, parce qu'on on l'aurait su, là, ça se serait parlé bien, bien avant ça. Mais il y a un élément, messieurs, qui n'est pas dans le texte. Et que je vous annonce, vous avez la petite primeur là-dessus, parce que par manque d'espace, j'ai pas mis ça, mais vous savez que les municipalités aussi sont mal prises avec cette situation-là. Ben oui, parce que les passages à niveau, quand ça traverse un village ou une ville ou une municipalité, qu'il y a des passages à niveau, il y a des écoulements pluviaux, et cette même disposition-là de sécurité fait en sorte que les municipalités ont la responsabilité de refaire l'aménagement de l'écoulement pluvial. Et ça, ça représente encore là des factures astronomiques pour les différentes municipalités. Et ça, c'est un autre débat que je vous invite à suivre. Vous pourrez peut-être faire vos petites recherches de ce côté-là, mais il y a des municipalités qui ne sont pas particulièrement heureuses de voir qu'elles risquent de se retrouver frais d'entretien et d'aménagement d'écoulement pluvial le long des passages à niveau dans le cœur des petites municipalités qui sont pas riches. Là. Il n'y a pas de municipalité qui roule sur l'or, que ce soit en Ontario ou ailleurs au Canada.
Jean-Marc, là, on arrive à la fin de l'entrevue. Comment on s'organise là, finalement avec tout ça? Est-ce qu'au moins on discute puis est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel? Ça, il va-t-il avoir une fin à ça à un moment donné?
Ben, selon les gens à qui on a parlé, oui, effectivement, selon la Fédération des agriculteurs de l'Ontario, il y a au moins maintenant un dialogue qui a été établi. Il reste des cas en litige qui ne sont pas réglés ou c'est difficile, mais sur une centaine de cas, là, on parle d'une dizaine de cas là, qui restent encore à travailler et pour lesquels il y a des pourparlers qui se poursuivent entre le CM, les agriculteurs et Transport Canada. Mais on pense que on va arriver éventuellement à une entente là, entre les différentes parties.
Vous allez lire les détails de tout ça dans un article qui a pour titre « Chemin d'enfer » sur le site journalagricom.ca. C'est tout en un mot. Vous allez mieux comprendre cette problématique là, qui se répète. Oui, on en a parlé pour l'Est ontarien, mais ça se répète forcément ailleurs au pays parce que des exploitations agricoles à travers le pays, les trains du CN, on s'entend, ils en traversent une puis une autre. Jean-Marc Dufresne, journaliste et rédacteur au journal Agricom dans l'Est ontarien. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Au plaisir.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est le troisième bloc de « Peut contenir des infos ». Dans un tout petit instant, on va parler de champignons, de la toxicité des champignons, c'est ça? Hein,
oui, et même de l'origine de la toxicité. Vous allez voir, c'est assez surprenant, toutes les choses génétiques qui peuvent se passer.
OK, d'abord, je vais vous parler, on va être dans le bois dans une certaine mesure, parce que les champignons, ça pousse dans le bois.
Oui.
Moi, je vais vous en partie, il y en a plusieurs. Mais moi, je vais vous parler de production de bois en laboratoire.
Ça, c'est incroyable.
Ouais. Sans abattre d'arbres, c'est une innovation qui pourrait réduire, entre autres choses, la déforestation. Il y a un domaine qui retient l'attention des scientifiques depuis quelques années, c'est de fabriquer des matières vivantes en laboratoire. Tu savais ça, hein? On a vu, par exemple, la culture de viande, on a vu la culture de poisson en laboratoire. Là, on est rendu à la production de bois dans un laboratoire. C'est une découverte qui pourra probablement modifier notre approche du domaine de la construction, entre autres, puis la gestion, on va dire, des ressources forestières. Il y a des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. Tu connais le MIT? On
oui.
en entend souvent parler. Hein? C'est une, quand
très
même,
prestigieux une, comme école.
Ouais, grand institut de technologie. Eux autres, ils travaillent à révolutionner l'industrie forestière en cultivant du bois en laboratoire et ça laisse entrevoir une solution innovante pour lutter contre la déforestation mondiale, entre autres choses. Les chercheurs du MIT ont extrait des cellules de feuilles de zinnia. Le zinnia, là, c'est une fleur annuelle d'origine mexicaine et ils ont cultivé ça dans un milieu enrichi en nutriments et en hormones. Et en ajustant la quantité d'hormones, ils ont pu transformer les cellules d'une feuille, d'une plante ou d'une fleur, là, et ils ont transformé ça en bois. C'est assez grave, tu penses? Faire du bois avec des feuilles, tu sais, avec des plantes. Alors, c'est une trouvaille qui leur a permis de créer du bois de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille, avec les propriétés mécaniques et physiques qu'ils souhaitent. Donc, on veut du bois plus ou moins flexible, on ajuste la recette. Et si on veut qu'il soit plus dur ou moins dur selon les besoins, on travaille aussi avec les hormones, puis on transforme le bois de cette façon-là. Ça va représenter un potentiel assez incroyable pour l'industrie du bois dans la mesure où ce sera beaucoup plus facile de gérer les stocks. Tu sais, faire pousser du bois, ça prend quand même quelques années, hein? Oui. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, là. La croissance des arbres, c'est quand même un phénomène qui est assez lent et c'est assez imprévisible. Tu sais, tu peux planter, par exemple, je ne sais pas combien de milliers d'arbres, croiser les doigts qu'il va y en avoir une certaine partie qui va croître, puis au final, te ramasser avec peut-être la moitié ou les deux tiers de ta production parce qu'il y a des arbres qui ont cassé, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à pousser et tout ça. Donc, avec une formule comme celle-là, la fabrication d'arbres en laboratoire ou de bois en laboratoire, on serait capable d'avoir une meilleure prévisibilité, entre guillemets, des stocks. Et on pourrait aussi produire des matériaux avec un pas mal meilleur contrôle de la qualité. Hein? Parce que fabriquer des arbres en laboratoire ou du bois en laboratoire, puis couper des arbres et puis faire de la planche, là, tu te ramasses avec des nœuds puis tout ça. Donc, il y a quand même un certain avantage. Alors, d'après les chercheurs du MIT, le bois qu'on cultive en laboratoire peut croître à un rythme deux fois plus rapide que celui observé dans la nature, ce qui pourrait modifier les pratiques, évidemment, de gestion forestière, sachant que la déforestation est un gros problème environnemental, parce qu'en produisant du bois sans abattre d'arbres, on va mettre beaucoup moins de pression sur les forêts naturelles. Et comme si ce n'était pas assez, l'avancée technologique des chercheurs du MIT va permettre de créer des objets en bois sans avoir à faire du gaspillage. Mm-hmm. Hein, parce que tu sais, tu prends une planche, par exemple, puis tu décides de faire des tablettes, il faut que tu coupes. Donc, ça fait du brandy. Faut que tu perces, faut que tu ponces, faut que tu sables et tout ça. Donc, forcément, il y a beaucoup de pertes. Mais là, l'avantage de faire du bois, c'est qu'on peut faire du bois sans perdre une grande partie des matériaux. Les objets qui vont être conçus de cette façon-là vont répondre à des besoins beaucoup plus spécifiques. Tu dis, je vais faire une tablette en bois. Tu fais pousser une tablette de 12 pouces de longueur par 4 pouces de largeur, puis au bout du compte, tu as un morceau de bois que tu n'as pas été capable, tu n'as pas eu besoin de couper ou tu n'as pas eu besoin de sabler, ce qui est assez fantastique quand on y pense. Mais attention, je veux juste pas que vous vous mettiez à triper, là, à sauter partout en disant ah, « c'est fini de couper des arbres là, quand même ». Il faut dire que la technologie, elle est encore toute récente, elle est en phase de développement. On va devoir évidemment poursuivre les travaux pour comprendre pleinement la technologie, comprendre les coûts également finaux, parce que là, c'est beau. On a fait une coupe de planche comme ça, on s'est aperçu que ça fonctionnait, mais à grande échelle, combien ça va coûter? Parce que, tu sais, il faut s'apercevoir la rentabilité. Est-ce que couper des arbres, en replanter des nouveaux, puis attendre que ça pousse, c'est moins coûteux? Et est-ce que c'est plus productif que de le faire pousser en laboratoire à des coûts beaucoup plus élevés? T'sais, c'est un peu tout ça qu'il va falloir vérifier.
Déjà que le bois est cher, là.
Ben déjà que le bois est cher, évidemment. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais déjà, on sait que la technologie existe. Les projets réalisés jusque-là sont d'ailleurs, ma foi, très, très prometteurs. Alors, vous le savez maintenant, faire pousser du bois deux fois plus rapidement en laboratoire que dans la nature, oui, ça existe, mesdames, messieurs.
C'est quasiment à se demander si on va regarder ça se développer, là, mais ça pourrait être intéressant d'investir à la bourse dans le bois en laboratoire. Hein, par exemple, on ne sait jamais, ça pourrait exploser cette affaire-là.
Absolument.
C'est peut-être ça qui va contribuer à sauver la planète.
Là. C'est probablement, je ne sais pas, mais en tout cas, fouillez ça. À un moment donné, peut-être que vous allez voir une exploitation forestière de bois produit en laboratoire, puis vous allez, vous allez acheter des actions d'une compagnie qui produit du bois en laboratoire, de la même façon qu'à une certaine époque, on achetait des actions d'une compagnie forestière qui allait couper du bois dans la forêt, tout simplement.
Exactement.
Toi, tu veux nous parler des champignons et de l'origine de leur toxicité, c'est ça?
Oui, tu nous avais parlé à l'automne, là, au début de la saison des champignons, et tu mettais les gens en garde, bien sûr, là, de s'informer avant de cueillir n'importe quoi. Hein. C'est toxique parce que tous les ans, il y a des milliers de personnes qui sont intoxiquées à cause de champignons. Puis, c'est pourquoi comprendre d'où proviennent les toxines, bien, c'est un enjeu de santé publique aujourd'hui. Puis là, je te parle d'une étude franco-chinoise. Belle collaboration, ça, la France et la Chine, qui ont étudié l'origine de l'amanitine, qui est une substance qui s'attaque au fonctionnement des reins et du foie. Donc, c'est une substance toxique dans les champignons. Puis, l'amanitine est reconnue depuis longtemps comme une toxine mortelle. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle est présente autant chez l'amanite phalloïde, un champignon, que chez la galère marginée, une autre sorte, ou le lépiote crêté. Trois champignons, en fond, qui sont génétiquement totalement différents. Okay. Comment ça se fait que la même toxine se retrouve chez différents champignons? Et puis là, les auteurs ont comparé le génome de 15 champignons toxiques pour identifier les gènes qui sont responsables de la fabrication de différentes formes d'amanitine, puis caractériser l'activité enzymatique qui est pilotée par ces gènes-là. Alors, un travail qui a été très difficile, ça a duré près d'une décennie, les travaux de ces chercheurs-là. Ça a livré des résultats vraiment prometteurs, par contre. On sait que 4 gènes ont pu être identifiés et ils sont identiques chez toutes les espèces mortelles. Le degré de toxicité qui explique que la manite phalloïde soit bien plus dangereuse que les autres membres de son genre. Mais ça, c'est lié au nombre de copies de ces gènes-là. C'est des dizaines d'exemplaires chez ce champignon-là, puis plus il y a de copies, plus la toxine produite est abondante et dangereuse. Alors, comment ça se fait que des espèces de champignons qui sont tellement différentes les unes des autres portent l'ensemble des gènes? Alors, c'est là que c'est vraiment intéressant. Les auteurs ont émis une hypothèse. Ce serait un transfert des gènes entre les champignons qui partagent un sol forestier. En d'autres termes, là, s'ils poussent près les uns des autres, okay, il y a des espèces qui s'échangent des gènes, puis wow, qui les transmettent à leur dépendance. Puis tout ce mouvement de gènes, c'est vraiment nouveau qu'on étudie ça comme il faut. Les chercheurs ont découvert dans la nature de plus en plus de cas où les gènes voyagent entre des occupants qui sont parfois très différents de la même niche écologique. Alors récemment, les scientifiques ont même décrit des échanges génétiques entre des serpents et des grenouilles, okay, juste pour te dire. Juste parce qu'ils habitent dans le même habitat, ils s'échangent des gènes. Ou même des mollusques marins et des algues dont ils se nourrissent se transfèrent des gènes aussi. Alors, il y a même des transferts qui ont été constatés sur des plantes à fleurs. Alors, on voit que les gènes, ça se propage. On sait que ces échanges-là entre espèces différentes existent, mais les mécanismes génétiques qui font ça, ben, ça reste inconnu. Ouais. L'hypothèse, là, c'est qu'il y a à peu près 40 millions d'années, il y aurait un champignon qui est aujourd'hui disparu, qui aurait transmis ses gènes à ses voisins par le biais de virus, de bactéries. Et puis là, ben, ça amène la toxicité à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les champignons les ont adoptés et transmis au fil des générations jusqu'à nos jours, ce qui donne un avantage évolutif. Lequel? Ben, de décourager ceux qui voudraient s'en nourrir.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça. Mais le champignon visible, je ne sais pas si tu sais, hein, les champignons, tu connais peut-être ça un petit peu, mais celui qu'on voit, il est le fruit d'un organisme souterrain. Hein.
Oui, ben oui.
C'est le mycélium, hein, ça tu connais un peu. Alors, c'est une excroissance qui diffuse les spores qui vont permettre à l'espèce de conquérir des nouveaux espaces. Alors, un champignon, c'est bizarre. Hein. C'est comme sournois, ça se passe en dessous de la terre, un gros mycélium, puis ça fait des petits champignons un peu partout.
C'est ça.
Mais les spores doivent atteindre une certaine maturité avant d'être disséminées et de se féconder. Puis la toxine pourrait décourager les prédateurs les plus pressés. Mais ça, c'est encore juste une hypothèse. Et si on recule de juste quelques années, en 2022, il y a une équipe chinoise qui a répertorié dans le monde 643 espèces toxiques qui appartiennent à 51 familles et 148 genres, ce qui montre qu'il y a une grande diffusion des toxines entre les champignons. C'est 100 000 espèces décrites par la science qui sont ni bonnes ni dangereuses. Et il y a 3 à 5 millions d'espèces qui sont encore inconnues. Alors, on est loin là, de tout savoir sur les champignons. Et à l'inverse des champignons toxiques, si on regarde un exemple, la truffe, elle émet des odeurs qui attirent les animaux. C'est comme le contraire. Elle veut être déterrée que ça favorise la dispersion de ses spores. Alors, c'est des stratégies différentes que la nature. Il y a des champignons qui ne veulent pas se faire manger, d'autres que oui. Puis, ça mêle des odeurs, des toxines, des couleurs, des formes qui sont encore inconnues et peu compréhensibles, tellement que c'est difficile d'observer dans son milieu naturel des organismes qui sont faits de mycélium, là, de fins filaments de plusieurs dizaines de mètres, qui permet même la symbiose entre les arbres. Alors moi, je suis fasciné par comment la nature fonctionne, mais pour ce qui est des champignons, là, je te dirais en conclusion que c'est encore plein de mystères. On est au début de l'étude de ça. Il y a tellement de millions d'espèces qu'on ne connaît pas que ça va finir par devenir moins mystérieux, mais pour l'instant, on n'en connaît pas tant que ça sur les champignons, mais c'est drôle de voir comment la toxicité s'est transmise.
Oui, et entre vous et moi, les champignons dont toi tu parles, ce sont les champignons qui poussent dans la nature, les champignons qu'on voit ou qu'on croise quand on marche dans la forêt, par exemple, mais les champignons, entre vous et moi, ça n'existe pas que dans la forêt. Hein. Il y a des champignons dans une foule d'autres domaines. Oui,
puis si on regarde les microscopiques.
Exactement. Même corps humain peut abriter des champignons. On ne fera pas les détails de toutes les maladies humaines. Non, mais tu sais, on a vu des annonces à la télévision. Hein? Ce sont des champignons à toute fin utile ou ce sont carrément des champignons. Donc, c'est pour vous dire à quel point des espèces de champignons à travers la planète, il y en a, puis pas qu'à peu près. On n'a pas fini d'étudier ça puis de comprendre le fonctionnement.
Imaginons dans l'univers.
Aïe. Sébastien, merci pour cette leçon sur la toxicité des champignons. Puis j'ai bien hâte dans un instant parce qu'on va s'attaquer au quiz.
Oh oui, je t'ai préparé un beau quiz sur le miel. Ben, on va voir si tu connais ça, si tu connais ton miel.
OK, ben je me prends une feuille, je me prends un crayon. Puis au retour de la pause dans un tout petit instant, je vais prendre le score pour ce quiz consacré au miel. Restez branchés.
Contenir des infos.
Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Vous écoutez Peut contenir des infos avec Sébastien Boucher, moi-même et Simon Forgue, chers collègues, et on passe au quiz de la semaine. Simon, t'es prêt?
Ah, je suis prêt, j'ai fait des exercices, j'ai fouillé dans des encyclopédies toute la fin de semaine. J'ai dit, quel est le sujet avec lequel il va m'arriver? Et là, je tombe sur du miel.
Oui, ben, je ne te l'avais pas dit à l'avance. Hein? Ben, c'est ça. On y va pour un quiz de miel, mais c'est pour te prendre au dépourvu. Et aussi, là, les auditeurs qui nous écoutent, notez vos bonnes réponses, savoir combien vous aurez comme résultat à la fin de ce quiz. On y va. Connaît-il son miel, notre cher Simon? Eh bien, première question. Le miel est consommé par les hommes depuis la préhistoire. Vrai ou faux?
Depuis la préhistoire? Oh, je dirais non, probablement pas depuis la préhistoire. Ça a pris un peu plus de temps que ça avant que les êtres humains découvrent le miel, là.
Ça part mal, ton quiz, Simon. Ouais. T'auras rien à noter sur ton papier. T'as pas le premier point. C'est vrai que humains consomment du miel depuis la préhistoire parce que, je te donne un peu la raison, il y a une peinture rupestre mésolithique dans une grotte de Valence, en Espagne, qui date d'au moins 8000 ans. Qui représente, on peut voir, deux cueilleuses de miel en train de récolter du miel dans un nid d'abeilles sauvages.
Ouais, OK. Je pensais s'arrêter.
Oui. Une peinture rupestre qui nous le prouve. Alors, les humains consomment du miel depuis très longtemps. Deuxième question. À partir de quelle substance les abeilles fabriquent-elles le miel? Je te donne un choix de réponse.
OK.
Est-ce que c'est à partir de A, le pollen, B, la sève des fleurs, C, le nectar des fleurs, ou D, la chlorophylle?
Je dirais le pollen, probablement.
Le pollen, eh bien, faux. La réponse est C, le nectar. Ah. Et puis, je comprends que tu dises ça, pollen, mais je vais t'expliquer vite la différence entre le nectar et le pollen, Simon, si tu permets.
Oui.
Ben, le pollen, c'est l'aliment des abeilles, tandis que le nectar est l'élément principal du miel. Si tu regardes ça, le nectar, lui, est composé d'eau, de sucre, qui sont différents selon les espèces végétales. Puis on peut dire que le nectar, en fait, c'est la matière première du miel. C'est l'abeille butineuse qui collecte le nectar au creux des fleurs. Les fleurs sécrètent ça du nectar pour attirer les insectes pollinisateurs, justement. Ouais. Puis, elle l'aspire et le garde dans son jabot, qui est un peu le petit estomac de miel, sans le digérer. Puis, une fois qu'elle est rentrée dans la ruche, elle régurgite le nectar dans le jabot d'une abeille receveuse. Hein. Il se régurgite ça d'une à l'autre. C'est là que la transformation chimique commence. Puis, dans la ruche, une receveuse transmet à son tour la goutte de nectar à une voisine, qui la transmet elle-même à une autre ouvrière. Puis ça, on appelle ça la trophallaxie, cet échange de régurgitation. Puis au cours de ces échanges-là successifs, la goutte transforme les sucres de la plante en sucres sains, principalement glucose et fructose. Alors, le nectar devient progressivement du miel. Et la dernière ouvrière qui régurgite la goutte, elle le fait dans une alvéole. Puis là, ben, à ce moment-là, il y a une enzyme qui transforme une partie de ce glucose. Ça permet donc d'obtenir toutes sortes de choses, même du peroxyde d'hydrogène qui est créé avec ça.
Ah oui, hein?
Et oui, ça protège des bactéries, des champignons, des moisissures. Le peroxyde d'hydrogène permet de conserver le miel durant sa maturation dans son alvéole.
Bon. Alors, bon, bon appétit tout le monde, là.
Oui. OK, troisième question, Simon.
Oui, vas-y.
OK. Quelle est la part moyenne de sucre dans 100 grammes de miel? Est-ce que c'est A, 35 grammes sur 100 grammes? Est-ce que c'est B, 50, C, 65 ou D, 80? La part de sucre dans 100 grammes de miel.
Probablement 80, ouais, ça doit être dans cet ordre de grandeur.
Mais t'as ton premier point!
Ah ouais, bon!
On le note à la troisième question, un point pour toi. C'est de 78 à 80 % du miel qui correspond à des hydrates de carbone, dont principalement du glucose et du lévulose. Le lévulose, en fait, c'est identique à du fructose.
OK.
Bon, alors voilà, c'est beaucoup de sucre dans le miel.
Ben.
Combien de fleurs les abeilles doivent-elles butiner pour produire un kilo de miel? Est-ce que c'est 4000 fleurs? Ah! Est-ce que c'est 40 000, est-ce que c'est 400 000 ou des 4 millions de fleurs pour produire un kilo?
Ah, moi, j'irais aux 4 millions. 4 millions.
4 millions?
Ouais.
Pour produire un kilogramme de miel, oui, c'est titanesque, c'est 4 millions. Et ça prend à peu près 14 000 heures de travail pour une ruche.
Yo!
Bravo pour ton deuxième point. Ça y va, ça y va. Tu vas peut-être être pas pire dans ce quiz.
50 % là.
OK, c'est bon. Cinquième question. Quel pays est le premier producteur de miel au monde? Est-ce que c'est le Brésil, la Turquie, l'Iran ou la Chine?
La Chine.
Mais bravo!
Ah oui, hein? À la taille de la Chine et à la population qu'ils ont, je présumais. Là, j'ai guessé, mais j'ai pas tant que ça. Là. J'étais allé par la. Comment je dirais ça? J'ai juste réfléchi un peu. Là.
Tu me promets là, que tu tapes pas vite sur Internet pour essayer d'avoir
la réponse. Non, j'ai un crayon de main, puis j'ai un papier de l'autre sur lequel j'écris mes affaires.
OK, je confirme. Je peux voir ton crayon, ton papier. Ben oui, c'est 25% de la production mondiale qui vient de la Chine. Puis sa production, c'est le double de la production européenne, juste la Chine. Les principaux autres pays qui produisent sont la Turquie, l'Argentine et l'Iran. Puis le Canada, avec environ 42 000 tonnes, est proche de 2% de la production mondiale de miel. Wow. Donc voilà. Une autre question. Comment on appelle le miel brut directement sorti de la ruche, en partie solide et qu'on peut acheter pour la consommation? Est-ce que c'est le miel en alvéole, le pâté de miel, le pain de miel ou le miel en rayon?
Pour en avoir vu sur les tablettes, je dirais du miel en rayon.
Mais t'es donc bien bon, c'est ça. Oui, puis on peut l'appeler aussi le miel en brèche, mais dans les choix que je t'ai donnés, c'est le miel en rayon. C'est comme ça qu'on appelle. Puis le monde pense que c'est super bon, hein? Ça a l'air tellement délicieux, mais on est un peu déçus quand on goûte ça, le miel en rayon. C'est bizarre la texture, puis c'est pas le super...
Un peu cireux, là, un peu... puis c'est pas... Non, ouais. C'est pas vargeux.
Mais c'est tellement beau, hein, l'apparence, là, ça a l'air bon, ça a l'air sucré, mais c'est pas aussi bon que du miel comme on achète à l'épicerie, malheureusement. Autre question, une vraie ou faux?
OK.
Le miel contient de l'eau. C'est vrai ou c'est faux?
Je dirais probablement faux.
Malheureusement, c'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai, t'as pas de point pour celle-là. Mais les abeilles travaillent à faire baisser la quantité d'eau dans le nectar pour le transformer en miel, justement. Puis, pour être considéré comme du miel, selon la législation, là, ça prend un taux d'humidité inférieur à 20%. Alors, un pot de miel contient toujours un pourcentage supérieur à 16% pour qu'il soit pas trop épais. Mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le miel.
Il y a de l'eau dans le miel. C'est mieux que d'avoir de l'eau dans le gaz.
C'est sûr. OK. Autre question. Comment s'appelle le processus qu'utilisent les abeilles pour transformer le nectar en miel? Puis là, si tu as été attentif, j'ai nommé la réponse plus tôt quand je te parlais, quand je te donnais des explications du nectar et du pollen. Alors, comment s'appelle le processus qu'utilisent les abeilles pour transformer le nectar en miel? C'est là où il se passe de langue en langue le miel, là, régurgite. Est-ce que c'est A, la phylaxie, B, la catalaxie, C, la trophallaxie ou D, l'ataraxie?
Est-ce que c'est pas la trophallaxie, je pense?
Oui, c'est ta mémoire qui t'a aidé.
C'est ça, là, c'est une chance que tu m'as vendu à la mèche tantôt.
Oui, celle-là, j'ai fait exprès pour te donner la réponse plus tôt parce que je voulais te donner une chance, ça c'est sûr qu'on ne savait pas. Mais la trophallaxie, ça dérive du mot grec trophène qui veut dire nourrir et alacène qui veut dire échanger. Donc, ça échange la nourriture par régurgitation. Puis les abeilles se passent le nectar jusqu'à résorption de l'eau de 20%. Puis les abeilles ne sont pas les seuls insectes qui utilisent ça, la trophallaxie. On retrouve aussi les fourmis et les guêpes qui font ça. OK. Pour quelles raisons principales les cuillères à miel sont-elles de préférence en bois plutôt qu'en métal? Choix de réponse. A. Pour un fini rugueux qui accroche le miel. B. Pour éviter de refroidir le miel. C. Pour respecter le pH du miel. Ou D. Pour éviter le développement de bactéries. Pour quelles raisons on fait ça en bois plutôt qu'en métal, les cuillères à miel?
Wow! C'est une bonne question. Probablement pour une question de pas mettre de bactéries, je sais pas. Ben quoique les cuillères en métal, je veux dire, il y a du métal pour les instruments chirurgicaux. La porosité, c'est pour mieux retenir le miel. Tiens, je vais y aller avec ça.
Non, c'est les deux réponses sont pas bonnes. Je te donne la bonne, c'est pour respecter le pH du miel. Assez. Puis je vais t'en apprendre une bonne, c'est parce que le bois possède un pH neutre, mais le métal, ça produit des sels au contact du pH acide du miel. Alors là, ça endommage les enzymes naturelles de la substance et c'est pourquoi il faut utiliser du bois. Assez spécial ce que ça peut faire le métal. Au mode microscopique, là, on ne le voit pas, mais ça a une influence. OK, 10e question. Les abeilles peuvent fabriquer du miel de sapin, vrai ou faux?
Ben, tu des fleurs après le sapin?
Est-ce que les abeilles peuvent faire du miel de sapin?
Ouais, c'est ça que je me demande, là. Ben oui, je vais dire oui.
C'est bon. Le sapin n'a pas de fleurs, hein, comme tu dis bien. Ça. Mais le miel de sapin, c'est un type de miel qui existe malgré que c'est très, très rare. Pour ce miel-là, les abeilles récupèrent le miella des sapins plutôt que le nectar. C'est une substance qui est sécrétée par les pucerons qui sont déposés sur les sapins et que les abeilles viennent récupérer.
Eh bien.
Parmi les propositions que je vais te donner, laquelle désigne un alcool fabriqué à base de miel? Je suis pas mal sûr, tu le sais. A. Ou même sans te donner le choix de réponse, tu peux me le dire.
Non, ben vas-y avec tes choix de réponse.
Ah, ça va être trop facile. OK, là, A, l'hydromel, B, ouais. L'absinthe, C, la chartreuse ou D, le génépi.
Ah, c'est ça, l'hydromel.
Ben oui, je savais qu'en te donnant les choix de réponse, c'était trop facile. C'est une boisson fermentée faite d'eau et de miel, l'hydromel. La fermentation peut être produite par des levures endogènes ou exogènes. Hein. Endogène, c'est produit par la structure elle-même sans apport extérieur. Puis exogène, ben, c'est avec un apport extérieur. Mais l'hydromel est généralement entre 10 degrés et entre 10 et 18 degrés d'alcool, donc un pourcentage d'alcool. 12. Question 12. Le miel, pardon, le miel se périme.
Il y a un chat à la gorge.
Je n'ai eu tout le
temps. C'est plus un chat, là, c'est rendu un lion. Là.
Lion. OK, mais il est passé. Le miel se périme généralement au bout de 5 ans, vrai ou faux?
Le miel, ça n'a pas de date de péremption, je pense. Ça,
ben,
peut être presque éternel. Ben, pas éternel, là, mais...
T'as raison, Simon, c'est faux. Le miel est considéré comme une denrée impérissable, comme tu le dis si bien, mais il faut le conserver à l'abri de la lumière.
Ouais.
Et il peut se conserver des dizaines d'années sans s'altérer grâce au sucre qu'il contient. Alors, ça répond aussi à une autre question que j'avais posée. Est-ce qu'il y a du sucre dans le miel? Quel miel, au goût parfois très amer, possède un coloris ambré, sombre et est très utilisé en cuisine? Est-ce que c'est A, le miel d'acacia, B, le miel de tilleul, C, le miel d'aubépine ou D, le miel de châtaignier?
Le seul que je connaisse ou à peu près là, c'est le miel d'acacia. Je veux dire le miel d'acacia.
Mais non, c'est le miel de châtaignier pour celle-là.
Ah ouais, hein?
C'est un des miels les plus utilisés en cuisine pour sa particularité, sa saveur, son arôme. C'est un très bon miel et il permet de parfumer des pâtisseries comme des biscuits, des gâteaux, des tartes.
Ah ben.
OK, dernière question. Quel miel de la tradition néo-zélandaise est utilisé pour soigner les plaies ainsi que des infections divers? Est-ce que c'est le miel de Manuka, le miel de Vénus, le miel de Warariki ou le miel de Jacaranda? Je finis ça avec une difficile, je voulais
ouais,
pas...
Là, tu punches, là. Je dirais D, le Jacaranda.
Non, c'était A, le miel de Manuka, okay. Qui est le nom d'un buisson qu'on trouve en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Alors, ce miel-là est vendu en pharmacie puis en parapharmacie. Son origine remonte à plus de 800 ans et ça peut soigner des plaies et des infections.
Ah ben, c'est intéressant comme quiz sur le miel. Alors, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bonne réponse sur 4.
C'est bon, plus que la moitié. Ben, t'as réussi mieux que moi avec mon panda géant, mais c'est bien hein, d'apprendre toutes sortes de choses sur des sujets.
Je comprends donc. Il y a des affaires là-dedans là, que j'étais pas au courant, mais pas du tout. Puis j'ai même appris à propos des cuillères, parce que quand on prend du miel chez nous à la maison, c'est plus souvent qu'autrement. C'est très commun de prendre une cuillère à soupe, par exemple, ou un couteau, puis de se servir du miel. Mais j'en aurais appris une bonne que pour ménager le pH du miel, c'est mieux d'y aller avec une cuillère en bois.
Ben, un autre exemple, tu avais parlé des planches à découper qui étaient mieux en bois qu'en plastique. Ouais. Ben là, pour les cuillères aussi, c'est bien d'avoir une coupe de cuillère en bois.
Ben, c'est ça, c'est très bien. Alors, je saurai à l'avenir. Ben, je savais que c'était mieux d'utiliser une cuillère en bois, mais je ne connaissais pas précisément la raison. Ben, là, je le sais, puis je vais m'acheter une cuillère en bois pour piger dans le pot de miel dorénavant.
Pourquoi?
Merci. Sébastien Boucher, on te souhaite de passer une bonne semaine.
Ben, toi aussi, Simon, je te rends l'appareil. Puis, retrouvez-nous pour une autre émission qui peut contenir des infos, apprendre tout plein de choses.
Salut, mesdames, messieurs. Passez une bonne semaine. On se retrouve pour une autre édition la semaine prochaine. Bye-bye.